À voix nue. Cette semaine, Belindola rencontre Denis Podalydès. Ce soir, une passion protéiforme.
Bonsoir Denis Podalydès.
Bonsoir.
Nous avons évoqué hier votre parcours d'acteur au théâtre et au cinéma. Et nous aborderons ce soir vos autres métiers, ceux de metteur en scène, de scénariste de cinéma, d'écrivain également, tous liés par une même passion des mots, qui sont le fil rouge de votre vie d'artiste, sans doute de votre vie tout court. Alors vous signez votre toute première mise en scène avec une pièce de Voltaire, Les Originaux ou Monsieur Capvert, sur la proposition de Christian Rist, en 1993.
Oui.
Vous montez cette pièce à Brest, où vous y êtes en résidence d'artiste, et dans un premier temps, elle fait l'objet d'une représentation unique, oui, dans le sud de la France, puis d'une reprise l'année suivante à Chaillot. Seulement entre-temps, dans l'interstice, vous traversez une phase mélancolique assaillie par ce fameux syndrome d'être un génie ou rien, être Staller ou rien.
Oui, être Staller ou rien.
C'est un mauvais début.
C'est vrai, oui. C'est une année, en fait, c'est une année charnière, où j'avais écrit un texte appelé « Ma dépression à 30 ans ». C'était exactement ça, c'était un passage dépressif important, qui m'a valu énormément de symptômes physiques très douloureux, d'insomnie, de tremblements, de toutes sortes de choses. Et je me rappelle que, d'ailleurs, le jour où j'ai eu l'impression de toucher le fond, j'ai mis un carambar dans ma bouche. Ça, c'était en répétition de cette petite pièce-là. Et puis j'ai sorti le carambar de ma bouche. Il y avait 3 dents. Et là, j'ai eu le sentiment que j'avais de preuve que j'étais vraiment tombé. Et que je pouvais pas me relever tout seul. Mais je crois que j'avais déjà commencé une analyse sur les conseils d'un ami à qui je m'étais ouvert de ce mal-être que je n'arrivais absolument pas à transmettre par ailleurs et dont les symptômes s'accumulaient. Je me souviens que j'étais allé même à Avignon avec mon ami Emmanuel
et Emmanuel Bourdieu.
Emmanuel Bourdieu et que je me cachais. Je me cachais de tous mes collègues acteurs, de tous les amis, et que la seule chose qui me calmait un peu, c'est d'aller marcher à travers champs de l'autre côté du Rhône.
Mais à l'époque, vous travailliez, vous aviez...
Oui, je travaillais. En fait, j'avais fait un Marivaux avec Christian Rist, qui avait été très très dur, où Christian avait lui-même perdu pied. C'était les fausses confidences, on avait fait une longue tournée, et pendant cette tournée, j'ai commencé à perdre le sommeil et à douter de ce que je devais faire. Après toute cette période, qui était une période merveilleuse avec Christian, j'étais assailli de doutes. Christian, et à ce moment-là, Christian voulait qu'on fasse conjointement, comme deux metteurs en scène, un stage sur Marivaux. Je ne me sentais pas légitime. Et puis, il y avait ce projet de reprise des Originaux. Et donc, je n'ai pas cessé de dégringoler dans cette année 93. Dans toute ma vie aussi, je n'arrivais plus. J'ai rompu avec ma compagne de cette époque. Je ne trouvais de place nulle part. Je rentrais à Versailles, je repartais aussitôt. En fait, c'est un temps où j'ai d'ailleurs énormément écouté de romans enregistrés parce que j'étais dans ma voiture en permanence. Et je ne me sentais bien que dans les déplacements, donc dans ma voiture entre Paris et Versailles, où j'écoutais tout ce qui se publiait comme livre audio, d'ailleurs. J'en ai de merveilleux souvenirs. C'est les seules choses à laquelle je m'accrochais et qui arrivaient à retenir mon attention. Mais je travaillais quand même, donc j'ai même tourné un court-métrage cet été-là avec mon frère qui s'appelle Voilà, mais dans un état d'angoisse. Il faut dire aussi que j'avais un jeune frère, un frère cadet, qui était lui-même en proie à une immense dépression. Mon frère Eric, qui est mort quelques années plus tard, en 97, et qui était au moment où il basculait, lui, dans la dépression. Et j'avais toujours cette faculté d'imitation, je pense, que j'ai épousé sa dépression, d'une certaine manière. Je suis descendu avec lui. Moi, pour d'autres raisons que les siennes, mais j'essayais de le prendre à bras-le-corps, et j'ai l'impression que je le relâchais aussi, comme si j'arrivais pas à le tenir dans mes bras. Comme si j'arrivais pas ni à comprendre son mal, ni à l'épouser tout à fait. Donc voilà, c'est sur ces entrefaites que j'ai fait ce spectacle, qui était donc la reprise d'un spectacle qui s'était incroyablement bien passé dans sa première version, quand on avait fait cette représentation unique, et qui, se reprenant à Chaillot, a été pour moi d'une douleur infinie. Je me sentais complètement nul. Je me souviens à la fin d'un filage de m'être levé, là, au moment où les comédiens attendaient que je donne des notes, comme on fait, je me suis levé. Et je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire qu'une seule chose, je suis nul.
Et comment vous sortez de cet épisode ?
Meurtri, complètement crevé, fatigué. Et je me souviens là d'une critique de Libération qui a été fondamentale d'ailleurs, faite par Mathilde Labardoni. C'est drôle parce que Mathilde Labardoni est la maman de Rebecca Marder, une actrice qui est à la Comédie Française que j'adore, avec qui je viens de jouer dans le film d'Arnaud Desplechin, et qui écrit ce spectacle, Les Originaux, à la fois inconstant et inconsistant. Et j'ai trouvé que c'était les deux adjectifs qui me qualifiaient.
Vous personnellement ?
Moi personnellement. C'était tout à fait moi. Inconstant et inconsistant. Et je suis allé voir un psychanalyste chez qui j'allais 3 fois par semaine à ce moment-là. Et j'ai tourné autour de ces deux mots pendant des mois.
Et vous êtes sorti de l'ornière ?
Et comme je suis sorti de l'ornière, je crois que c'est l'année d'après, je suis allé au Liban. En tournée avec Bérénice, que Christian Rist avait donc monté sous forme de forme improvisée, avec 2 acteurs par protagoniste d'ailleurs. Il y a eu des répétitions formidables, des représentations très réussies, puis d'autres beaucoup moins. Mais on a tourné au Liban, Liban d'après-guerre, ça c'était en 94. Et dans ce Liban dévasté, je me suis trouvé comme un pays auquel je m'identifiais totalement. J'étais moi-même une sorte de Liban dévasté, avec des, vous savez, la place des canons était complètement détruite, tous les immeubles, c'est comme si on les voyait en coupe, hein, parce qu'il y avait des façades qui étaient complètement déchirées, et on voyait des familles qui vivaient à l'intérieur, aux étages de l'immeuble, mais qui avaient un grand trou dans le mur. Et puis, cette tournée, Liban, Égypte, Israël, Grèce et Syrie. J'ai joué en Syrie, même à Alep. Ça a été un moment absolument merveilleux de réconciliation, un peu où je avec moi-même. J'ai tout simplement oublié, en fait.
Oublié que vous alliez mal ?
J'oubliais mes ambitions frénétiques, en fait. Être Chateaubriand ou rien, être Strehler ou rien. Je comprenais que tout ça était relatif. Bon, j'étais peut-être pas un grand metteur en scène, mais je pouvais être quand même un metteur en scène. Or, je détestais les jugements relatifs. Avant, j'étais dans une sorte de considération absolue, ce qui est propre à la jeunesse, en fait, un jeune âge, de se mettre dans des ambivalences déchirantes. Et puis, je dois dire que moi, je suis un fervent supporteur de la psychanalyse, parce qu'elle m'a fait un bien fou, et ce psychanalyste, je lui dois énormément. Je lui dois la constitution d'un roman. Une psychanalyse, c'est la constitution d'un roman personnel. Une forme d'autobiographie qui a été la chose qui a pu se mettre à distance entre moi et mon mal, disons. Et donc, tout en allant cas à cas, les symptômes dont je parlais tout à l'heure se sont défaits. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai pu reprendre voix devant les autres. C'est en fait ce que je n'arrivais absolument pas à faire, c'est à me sentir dépositaire de quelque chose devant un groupe. Et en être le chef, en être l'autorité, en être l'aîné. C'était des fonctions que je donnais ou à mon frère, ou à Christian Rist, ou à plus tard à Eric Ruff d'ailleurs. J'ai toujours eu besoin d'avoir un frère.
Un frère qui prenne les responsabilités pour
exactement,
vous.
Qui prenne un certain nombre de responsabilités et qui me décharge de cette chose insupportable qui était l'autorité ou la une fonction de père, peut-être.
C'est comme ça que vous voyez le rôle du metteur en scène.
Oui, oui, oui. Et en fait, je le découvrais parce que pour moi, metteur en scène, c'est celui qui avait des idées, plein d'imagination, et qui avait lu pas mal de choses, et qui était capable... Et d'ailleurs, quand je lisais la pièce, Les Originaux, j'étais capable d'imaginer quantité de choses. J'avais, avec Christian, élaboré un décor... Bon, tout dans ce spectacle aussi, dans sa reprise, était douloureux pour moi, parce qu'il y avait aussi la compagne dont je me séparais, le décorateur était en train de mourir du sida, enfin, ma relation avec Christian était en train de se fragiliser, tout semblait raconter le paradis perdu un peu.
Alors vous citez à plusieurs reprises Emmanuel Bourdieu, qui est votre ami de Cagnes. Vous
de
connaissez
Cagnes.
Depuis
oui,
la
oui.
Cagnes.
Oui, oui.
Vous reprenez votre travail de metteur en scène à la fin des années 90 et vous montez des pièces d'Emmanuel Bourdieu.
Alors,
vous montez
voilà.
Tout mon possible.
Grâce à lui, en fait. Si j'ai vraiment pu devenir metteur en scène après cette expérience qui m'avait quand même bien meurtri, c'est grâce à lui, à son écriture, à ses encouragements, à son amitié et à ce que je voyais qui naissait sous sa plume. D'ailleurs, je rêve que Emmanuel puisse publier un roman policier en tête. C'est, pour moi, c'est un écrivain. Et un écrivain, donc, quand on est écrivain, on peut écrire du théâtre. Je crois ça. Il n'y a pas de vraiment. Enfin, après, on écrit plus ou moins bien pour telle ou telle forme. Mais en tout cas, lui, il y a cette pièce qu'il écrit qui s'appelle Tout mon possible. Une sorte de thème à la Edgar Poe. Un personnage se sentant faible et démuni, va chez un psychothérapeute qui est capable de fournir de soi-même une copie de vous-même qui accomplit tout votre possible.
Augmenté.
Et il va donc chez ce docteur double, qui fait donc de lui un double, qui va retourner dans le monde et accomplir tout le possible de l'original. Sauf que, évidemment, le double, c'est comme tel une sorte de petit Hyde qui prolifère et qui profite, va dépasser l'original et va même se retourner contre l'original. Vous voyez, c'est une petite fable psychanalytique et policière, d'ailleurs, et qui était écrite avec une voix off, que j'aimais beaucoup, et je l'ai mise en scène et créée au théâtre de la commune d'Aubervilliers, avec un très grand plaisir avec les acteurs, et parce que Emmanuel était là, parce qu'on faisait ça ensemble, parce que c'était son œuvre. Sauf que je pense que l'écriture d'Emmanuel aurait mérité un metteur en scène peut-être autre que moi. J'ai toujours pensé ça. Je l'ai fait parce que je pense que j'étais à ce moment-là le seul à pouvoir le faire, puis j'en avais envie. Mais j'ai dû toujours travailler par le sentiment que j'ai pas fait tout à fait honneur à son œuvre, qui fait que les pièces n'ont pas été assez remarquée, même si celle-là a eu une bonne critique, ainsi que la pièce suivante, je crois, sauf qu'elle avait été un peu esquintée dans l'IB, ce qui m'avait peiné. Je crois, c'était sur un autre thème psychanalytique, ces deux enfants dont on suit la vie, et dans l'enfance, la fille invente un jeu avec son frère, elle retourne le jeu en tu et le tu en je. Pour dire donc « je », il faut dire « tu », pour dire « tu », il faut dire « je ». Et donc « je crois », c'est « tu crois », en fait. Et ce « jeu va vriller dans la tête du garçon et le rendre totalement extérieur à lui-même. Donc c'est le destin de ce garçon dont la sœur a retourné le cerveau, d'une certaine manière. Petite fable aussi, qui a été un très beau spectacle. Et là aussi, je le dois beaucoup aussi à Gilbert Filinger, qui était l'administrateur de Christian Rist, et avec qui, quand il a dirigé le théâtre de Bourges, la Maison de la Culture de Bourges, puis ensuite la Maison de la Culture d'Amiens, m'a toujours fait confiance et m'a régulièrement programmé et encouragé, et notamment aimant, c'est par lui aussi que j'ai pu monter avec Frédéric Bellier-Garcia, parce qu'ils avaient coécrit ensemble, notre peut-être plus grande réussite, disons, qui était le mental de l'équipe, qui était un très très spectacle que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, avec aussi Michel Esco, Jérôme Kircher et d'autres.
Alors vous êtes un fidèle, parce que vous n'avez depuis jamais cessé de travailler avec Emmanuel Bourdieu. Mm-hmm. Vous êtes un homme de troupe, même s'il y en a plusieurs, des troupes. Votre frère, Bruno Podalydès, Arnaud Desplechin aussi, Éric Ruff, Pascal Rambert.
Oui.
Que des hommes. Qu'est-ce qui fait que vous avez du plaisir à retrouver les mêmes personnes aussi régulièrement? Elle jalonne en fait toute votre chronologie.
Oui, je crois que la matrice, c'est le lien avec mon frère.
Avec Bruno.
Qui est un lien de dépendance aussi. Ce que je disais tout à l'heure, besoin absolument de partager une responsabilité, une espèce de peur de me retrouver seul à cette place-là, ça crée une angoisse contre laquelle je lutte en trouvant tel ou tel frère. Et besoin d'un autre moi-même, donc peut-être c'est pour ça que c'est un homme, je ne sais pas que je choisis un homme, pour partager la responsabilité du projet. Ça a été mon frère, ça a été Emmanuel. Ça a été, je pense, Christian rentre aussi dans ce cas de figure, Emmanuel, puis ensuite à la Comédie Française, Eric. Donc c'est, il y a de la, parce que aussi j'ai besoin d'un échange. Je suis très volontiers solitaire, moi. Mais il faut que je casse cette bulle-là, donc j'ai besoin d'échanger. Je sais qu'il faut que j'ai besoin d'un autre, parce que sinon, je me monte le bourrichon, tout seul. Je m'enferme dans ce petit bureau, et alors pour l'écriture, c'est bien. Mais quand il s'agit de préparer un spectacle, j'ai besoin de d'un autre à côté de moi. C'est dans le travail de création scénique, ou cinématographique aussi, j'ai besoin d'un autre qui est là et sur lequel je m'appuie. Et puis alors Eric, ça a été aussi j'étais très heureux de ça, c'est quand on a fait Cyrano.
Eric Ruff.
Voilà. C'était Fomen Koder qui m'avait inspiré ce spectacle, qui m'avait dit que je devais monter Cyrano avec Michel Vuillermoz. Et ma meilleure idée, c'était de demander à Eric une scénographie, alors qu'il n'en avait fait, pour moi, il n'en avait fait quasiment qu'une. C'était un spectacle qu'il avait fait au TGP, qui s'appelait Du désavantage du vent, et où il avait représenté un chalutier dans la nuit, partant de tempête. Et ça m'avait semblé, comme scénographie, magnifique de pouvoir représenter autant, avec aussi peu de choses. Parce qu'il y avait juste une casemate. C'est un acteur qui avait donc une sorte de boîte sur lui, mmh. et qui, dans le noir, avec un peu de fumée, du son, et qui faisait tanguer sur ses pieds. J'avais trouvé ça magnifique. Donc je voulais proposer le rôle de Christian à Eric, et aussi la scénographie. Et c'est comme ça qu'a commencé nous étions déjà amis, notre collaboration. Et je dois dire qu'il est quasiment co-metteur en scène de Cyrano.
Comment vous choisissez une pièce, un opéra, sur lequel vous allez mettre tant d'énergie, tant de travail?
Alors les opéras, c'est pas moi qui choisis généralement.
On
me les propose et je lis, j'écoute, je réécoute et souvent je dis oui parce que je sais que plus je suis au départ loin de l'œuvre et plus je sens que le voyage va être intéressant. Je veux être totalement déporté de mes bases. Je veux être bousculé par l'œuvre, j'ai envie de tout réapprendre, donc je n'ai pas du tout envie de quelque chose dont je me sens capable tout de suite. C'est paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit, mais plus l'œuvre semble me contester moi, me bousculer, et plus ça m'intéresse, ou elle semble m'échapper. Là, je choisis comme projet futur une pièce d'Ostrovski, une langue que je ne parle pas, une pièce extrêmement... qui a quelque chose de très hétérogène, et en elle-même, et dans ma façon de voir, ma sensibilité. C'est comme si c'était un espèce d'oursin que j'essayais d'attraper par un des piquants, et je me pique tout le temps. Mais c'est ça qui me plaît. Donc la première fois on m'a proposé un opéra, j'étais un peu paniqué, parce que ne lisant pas la musique, ayant le sentiment de n'y rien connaître. Mais j'ai dit oui. D'abord, j'étais flatté.
Parce que c'est noble?
J'étais flatté, parce que c'était une reconnaissance de moi en tant que metteur en scène. J'ai toujours souhaité ça aussi. Donc après le succès de Cyrano, c'est venu de ça, hein, tout simplement. Et puis je crois le Fantasio que j'avais fait après. Et donc c'était Jérôme Deschamps et Olivier Mantei, l'opéra comique, qui m'ont proposé Fortunio de Messager. Donc voilà, les opéras, c'est une aventure humaine et technique et artistique complètement différente. J'ai tout appris et puis maintenant, je commence à me sentir un petit peu mieux dans les outils que propose l'opéra, dans les outils qu'un metteur en scène d'opéra a à sa disposition. Je m'organise C'est-à-dire mieux avec les chanteurs. Comment travailler avec des chanteurs, comment travailler avec un chœur, comment travailler avec une partition, comment écouter, comment structurer une mise en scène. J'ai l'impression que là, ce Falstaff, qui devait se faire donc là au printemps dernier, se reporte en 2023, mais je le sens bien, comme on dit. Peut-être que ce sera mon plus gros échec, je ne sais pas, parce que l'échec est... J'adore la phrase de Francis Ponge, que citait d'ailleurs Christian Rey, c'est « Soyons convaincus de notre réussite relative comme de notre échec absolu ».
Oui, parce qu'être metteur en scène d'un spectacle, le succès ou l'échec dépendent de vous.
Quand vous êtes metteur en scène, vous embarquez toute une équipe avec vous. Mmh. C'est ça peut-être la chose qui est la plus difficile à penser. J'ai parfois des moments en tant que metteur en scène où je me dis « Mais où est-ce que je les ai tous embarqués ?»
Alors, dans votre travail de metteur en scène, l'écriture est une étape essentielle. Vous dites que vous vous sentez plus lucide quand vous écrivez. Qu'est-ce que l'écriture solutionne que la discussion ou la réflexion ne parvienne pas à dénouer?
Ben ça, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un truc incompréhensible, ça. Pourquoi? J'ai l'impression que quand je passe par l'écrit, qui est parfois plus douloureux pour moi, parce que je cherche une forme, je travaille, j'essaie d'arriver maintenant à une qualité d'écriture, à la fois avoir quand même la forme la plus limpide et l'expression la plus simple. J'aimerais arriver à ça. En fait, quand j'étais petit, jeune homme, le rêve absolu, c'était d'être écrivain. Je me rêvais en écrivain. Acteur était une dimension un peu secondaire. J'étais un écrivain qui allait écrire pour Jean-Louis Barrault une pièce dans laquelle il jouerait. J'allais être une sorte de mélange de Claudel. Pour moi, c'était Claudel, Genet, Proust.
Vous avez écrit un roman?
J'ai écrit un roman, mais je sais que si, en fait, si on veut être vraiment romancier, je pense que c'est à plein temps. Moi, j'écris dans les marges de mon métier, dans les marges du temps que j'ai, et pour écrire vraiment un roman et un roman qui soit ambitieux, je pense qu'il faut s'y consacrer, faut y consacrer tout le temps, faut énormément. Et moi, je peux écrire que de façon interrompue, et donc j'écris plutôt sous le mode de la chronique, du texte court. Et j'ajointe des textes, des chapitres courts. Et avec Fuir Pénélope, je suis quand même content. J'ai arrivé à faire une continuité, mais enfin, ça a été vraiment dur.
Écrire, c'est quand on pratique un art comme le vôtre, c'est mettre du tangible, du concret, obtenir un objet physique et le livre.
Absolument. Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui ont développé la mélancolie d'être sans œuvre. Que quand on est acteur, bon alors maintenant si vous pouvez prendre un DVD d'une pièce ou d'un film, vous dites voilà j'ai fait ça, et vous vous séparez d'une certaine manière de l'objet de votre création. Mais enfin c'est pas tout à fait vrai quand même. Et donc quand on est acteur, on est son propre outil, et on a besoin des autres pour travailler. Et ça crée une forme de dépendance aux autres, et ça crée pas ce sentiment qui pour moi a toujours exalté quand je suis entré dans l'atelier l'image même, c'est l'atelier de l'artiste peintre, qui entouré de ses toiles, avec les murs badigeonnés de peinture, des pots et des pots, des milliers de pinceaux, et lui au cœur de la chose même, comme ça, faisant visiter physique. Son atelier. Voilà, et c'est physique, les mains tachées de peinture. Un acteur, son atelier, ça ne peut être que la salle de répétition, et il faut qu'il y ait d'autres. Parce que sinon il est fou, ou alors il travaille tout seul, mais il a besoin. Vous avez toujours au moment besoin du public. Vous n'avez pas ce sentiment de complétude, de plénitude. Et donc moi, le fait d'écrire me donne le sentiment d'être un peu plus créateur que ça. Même si d'ailleurs je revendique une chose en tant qu'acteur, et c'est d'ailleurs quand j'enregistre un texte dans un studio d'enregistrement que je suis au plus près de ce fantasme d'être un acteur. Qui est un acteur en train d'écrire quand même, où jouer et écrire c'est presque la même chose.
Quand vous lisez un texte.
Oui, parce que je m'attache qu'à une seule chose, c'est à être intelligible. Je rêve d'être totalement transparent et qu'il n'y ait que le sens du texte qui passe, et que ça, que le sens et la matière du texte, c'est de me de créer un mouvement alchimique qui fait que je me transforme en substance littéraire et significative, mais en poésie.
Vous avez écrit 4 livres,
oui,
et un livret sur Shakespeare pour la Pléiade.
Oui.
Vous avez toujours un livre en cours à écrire?
Oui, toujours, en tout cas j'en ai même plusieurs en tête. Et concrètement, alors depuis que j'ai eu des enfants, donc depuis 2013, évidemment, le temps d'écriture s'est considérablement diminué. Et donc, les projets s'accumulent dans le cerveau, mais on tarde à se concrétiser sur le papier. Donc, j'ai un livre qui sera publié, si tout se passe bien, à l'automne 2021. Les nuits d'amour sont transparentes, qui sera dans la librairie du 21e siècle de Maurice Hollander, et qui est un livre consacré aux répétitions de La Nuit des Rois, mis en scène par Thomas Ostermeyer, qui est qui n'est pas un journal de répétition, qui n'est pas simplement un compte-rendu de ce travail-là, et qui s'apparente un peu à mon premier livre, Scène de la vie d'acteur, mais dans un temps, dans le temps de ces répétitions-là.
Ces répétitions,
donc, la vie de l'extérieur entre aussi dans le cours du texte.
Elles ont eu lieu en 2018.
2018,
à la Comédie Française.
Ça va de mai 2018 à septembre. Le livre s'arrête le soir de la première.
Pourquoi cette pièce-là et cette metteur en scène-là vous
inspire-t-il ? Alors, j'avais fait ça un peu dans Scène de la vie d'acteur, consacré tout un long chapitre fait de plusieurs textes à mon travail avec Fomenko. C'est parce que je sentais que c'était une expérience théâtrale unique qui me transformerait, dans laquelle je me mettrais à l'épreuve et dont j'allais sortir autre. Et ben, c'était la même expérience avec ce. J'attendais tellement. Vous vous rappelez, dans une des premières émissions, je parlais de la joie profonde d'être choisi pour un rôle. Et donc, j'avais dit que le jour où Eric m'avait appelé pour me dire que je jouerais dans La Nuit des Rois, le rôle d'Orsino, j'avais ressenti cette joie enfantine. Eh bien, c'est la conséquence de cette joie, en fait, ce livre. D'ailleurs, j'aime de plus en plus les écrivains du bonheur, qui arrivent à consigner. On se dit, c'est assez facile d'écrire sur la mélancolie, d'écrire dans des états mélancoliques. Mais d'écrire dans des états de bonheur, ça n'est pas simple du tout. J'ai essayé, parfois, de traduire comme ça, sur les pages, le bonheur théâtral. Ce que c'est que le bonheur d'être dans une aventure théâtrale qu'on estime non seulement juste, légitime, mais belle, adéquate, profonde, décisive, et dans laquelle je me transformais, et dans laquelle je voyais les autres se transformer, ou atteindre ce qui est en eux, une sorte de beauté. J'ai eu des moments dans les répétitions spectacles où j'ai cru voir de la beauté pure à travers le jeu des autres. C'est beaucoup consacré au jeu de mes camarades, aussi des intuitions, des sensations dans mon propre jeu. Je reviens souvent sur la toute première scène de cette pièce, mais j'essayais de consigner, de faire des portraits comme ça de mes camarades sur le vif. J'ai toujours adoré ça, d'être en répétition. Je le faisais, j'avais mon iPad, parce qu'on était tout le temps à poil dans cette,
en slip,
et qu'on prend la répétition. J'avais mon iPad et j'ai noté comme ça des choses, et puis après voilà, j'ai repris tout ça en forme et c'est devenu ce livre qui s'appelle Les Nuits d'amour sont transparentes. C'est le titre, c'est dans une réplique du personnage d'Olivier, Love's Night is Noon, et que je trouve Olivier Cadio, qui est le traducteur de notre version, a traduit par Les Nuits d'amour sont transparentes. Et j'aime beaucoup cette phrase.
Merci Denis Podalydès.
Ah, c'est fini là.
C'est fini.
Ah, oui.
Demain sera notre dernière rencontre. une émission entièrement consacrée à votre résidence secondaire ou principale. Ça, ce sera à vous de nous le dire. Nous parlerons demain de la Comédie Française.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béline Dola avec Denis Podalydès. À voix nue. Réalisation Christine Robert, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.